16. Pete ne dit pas bonjour. Il dit « Écoute ça, Kerm. Écoute ça et fais-en tes choux gras. La salope est dans la maison avec une paire de skids, et moi je suis dehors derrière dans une cabane à rempoter les fleurs ou je sais pas quoi, et il fait un froid de loup. »
D'abord, Hodges est trop surpris pour répondre, et pas parce qu'une paire de skids, c'est le nom que les flics de la ville donnent aux enquêteurs de la division d'investigation criminelle de l'État, est présente sur une scène de crime où Pete a été appelé. Il est surpris, pour tout dire estomaqué, parce qu'au cours de leur long partenariat, il n'a entendu Pete parler d'une femme de cette manière qu'une seule fois. C'était en parlant de sa belle-mère, laquelle avait encouragé l'épouse de Pete à le quitter et l'avait prise chez elle, avec leur gosse, quand elle avait fini par se décider. La salope dont il parle cette fois ne peut être que sa coéquipière, alias Miss Jolis Yeux Gris.
« Kermit, t'es là ?»«
Oui, je t'écoute, » dit Hodges. « T'es où ?»«
Sugar Heights, sur la panoramique Lilac Drive, au domicile du docteur Félix Babineau. À son putain de domaine, oui. Tu sais qui est Babineau, je sais que tu sais. Personne ne suivait Brady Hartsfield de plus près que toi. Un moment, il a même été ton putain de passe-temps.
Concernant celui dont tu parles, oui. » Concernant ce dont tu parles, non.
Tout ce truc va finir par péter, mon vieux. Easy n'a pas envie de se prendre des éclats d'obus quand ça arrivera. Elle a des ambitions, tu vois. Inspecteur en chef dans 10 ans. Pourquoi pas chef de la police dans 15? Je peux comprendre, mais ça veut pas dire que j'apprécie. Elle a appelé le chef Horgan dans mon dos, et Horgan a appelé les skids. Si c'est pas déjà officiellement leur affaire, ça le sera d'ici midi. Ils tiennent leur coupable, mais ça colle pas, merde. Je le sais, et Izzy le sait aussi. Sauf qu'elle s'en fout comme de l'an 40.
Ralentis, Pete, et dis-moi ce qui se passe.
Holly plane anxieusement au-dessus de lui. Hodges hausse les épaules et de son doigt en l'air lui signifie « Attends ».
La femme de ménage est arrivée ici à 7h30, ok? Elle s'appelle Nora Everly. Elle découvre la BMW de Babineau au bout de l'allée, arrêtée sur la pelouse, avec un impact de balle dans le pare-brise. Elle regarde à l'intérieur, voit du sang sur le volant et sur le siège, et appelle le 911. Il y a une voiture de patrouille à 5 minutes. Wait. Il y en a toujours une à 5 minutes. Et quand ils arrivent, ils trouvent Everly barricadée dans sa propre voiture, tremblant comme une feuille. Les uniformes lui disent de ne pas bouger et vont voir à la porte. La maison est ouverte. Madame Babineau, Cora, est couchée par terre dans l'entrée, morte. Et je suis sûr que la balle que le légiste va extraire sera la même que celle trouvée dans la BM. Sur le front. T'es prêt? Elle a un Z écrit au feutre noir. Il y en a d'autres un peu partout au rez-de-chaussée, dont un sur l'écran de télé géant. Exactement le même que chez Ellerton. Et je crois que c'est à ce moment précis que ma coéquipière a décidé qu'elle ne voulait surtout pas être mêlée à ce sac d'embrouille.
Hodges répond. Ouais, probablement.
Juste pour que Pete continue à parler. Il attrape le bloc à côté de l'ordinateur de Holly et écrit « Femme Babineau assassinée en grande capitale » comme un titre de journal. La main de Holly s'envole vers sa bouche.
Pendant qu'un flic appelait la division, l'autre a entendu des ronflements à l'étage. « Comme une tronçonneuse au ralenti », il a dit. Alors il monte, arme au poing, et dans l'une des 3 chambres d'amis, compte bien, 3, cette baraque est géante, putain. Il trouve un vieux mec qui dort à poing fermé. Il le réveille et il leur dit qu'il s'appelle Alvin Brooks.
Bibli Hall, s'écrie Hodges, de l'hôpital. Le premier zapid que j'ai vu, c'est lui qui me l'a montré.
Ouais, c'est lui. Il avait un badge de Kinner dans la poche de sa chemise. Et sans qu'on lui demande rien, il dit qu'il a tué Madame Babineau, prétend l'avoir fait pendant qu'il était hypnotisé. Alors il le menotte, l'emmène au rez-de-chaussée et l'assoit sur le canapé. C'est là qu'Izzy et moi l'avons trouvé en arrivant sur les lieux une demi-heure plus tard. Je sais pas ce qui cloche chez ce gars, s'il est en dépression nerveuse ou quoi, mais il est perché sur la planète violette. Il arrête pas de divaguer, de sortir des tas de trucs bizarres.
Hodges repense à quelque chose que Hal lui a dit lors d'une de ses dernières visites à Brady,
autour du week-end de Labor Day, ça devait être. Jamais aussi bien que ce qu'on voit pas.
Ouais. Pete a l'air surpris. Des trucs comme ça. Et quand Izzy lui a demandé qui l'avait hypnotisé, il a dit que c'était les poissons, près de la magnifique mer.
Ça, pour Hodges, c'est compréhensible maintenant.
Sur interrogatoire plus poussé, c'est moi qui m'en suis chargé. Izzy devait déjà être dans la cuisine en train de se débarrasser de tout le truc sans me demander mon avis. Il a dit que c'était le docteur Z qui, je cite, lui avait demandé de laisser sa marque. En 10 endroits différents, a-t-il dit. Et effectivement, il y a 10 lettres Z, en comptant celles que la victime a sur le front. Je lui ai demandé si le docteur Z était le docteur Babineau, et il m'a dit non. Le docteur Z, c'est Brady Hartsfield. Dingo, tu vois ?
Ouais, dit Hodges.
Je lui ai demandé s'il avait aussi tué le docteur Babineau. Il a juste fait non de la tête et dit qu'il voulait retourner dormir. C'est là qu'Izzy revient à petits pas me dire que le chef Horgan appelait les skids, vu que Dr. B est un type en vue et que cette affaire sera très médiatisée. Et en plus, 2 d'entre eux traînaient comme par hasard dans le coin, attendant d'être appelés pour témoigner dans une autre affaire. Ça tombe pas à pic, ça ? Elle me regarde même pas en face, elle devient toute rouge, et quand je commence à lui montrer tous les aides en lui demandant si elle a pas déjà bu ça quelque part, elle refuse d'en parler.
Hodges n'a jamais entendu autant de colère et de frustration dans la voix de son ancien coéquipier.
C'est là que mon portable sonne et... Tu te souviens quand je t'ai appelé ce matin ? Je t'ai dit que le médecin de garde avait prélevé un échantillon du résidu dans la bouche de Hartsfield, avant même que l'assistant du légiste arrive.
Oui.
Bon, c'était ce toubib qui m'appelait. Simonson, il s'appelle. On n'aura pas le résultat du légiste avant 2 jours au plus tôt. Mais Simonson m'a communiqué le sien. Le produit retrouvé dans la bouche de Hartsfield était un mélange de Vicodine et d'Ambien. Or, on ne lui avait prescrit ni l'un ni l'autre, et il pouvait difficilement, d'un petit tour de danse, aller s'en chercher dans l'armoire à Médoc le plus proche, pas vrai ?
Hodges, qui sait déjà ce que prenait Brady pour la douleur, en convient.
En ce moment, Izzy est dans la maison, sans doute en train de la boucler et d'observer de loin pendant que les skids interrogent ce pauvre Brooks qui, parole, se rappelle même plus son nom à moins qu'on le lui souffle à l'oreille. Sinon, il s'intitule lui-même Z-Boy, comme un truc sorti d'une BD de Marvel.
Serrant son stylo presque assez fort pour le casser en 2, Hodges trace de nouvelles capitales de une sur son bloc, pendant que Holly se penche et lit « Bibli-Hall égale Z-Boy parapluie débit ». Holly le dévisage, les yeux écarquillés.
« Juste avant que les skids arrivent, putain, ils ont pas mis longtemps, j'ai demandé à Brooks s'il avait aussi tué Brady Hartsfield et Izzy lui a dit « Ne répondez pas !»«
Elle a dit quoi ?»
s'exclame Hodges. Il n'a pas vraiment la tête à s'inquiéter de la détérioration des relations de Pete et de sa coéquipière, mais il est tout de même choqué. Izzy est inspecteur de police, après tout. Pas l'avocate de Bibli-Hall.
Tu m'as bien compris. Alors elle me regarde et me dit « Tu ne lui as pas récité ses droits ?» Alors je me tourne vers les uniformes et je leur demande « Dites les gars, vous avez récité ses droits à ce monsieur ?» Et évidemment, ils répondent « Oui ».
Je regarde Izzy, qui est plus rouge que jamais, mais elle en démordra pas.
Elle me sort « Si on merde là-dessus, c'est pas sur toi que ça retombera, dans 2 semaines t'es plus là, mais sur moi et pas qu'un peu. »
Donc les gars de l'État débarquent.
Ouais. Et moi maintenant je suis là, dehors, à me geler le cul dans la putain de cabane de jardin de feu Madame Babineau. Le quartier le plus riche de la ville, Kerm, et je suis coincé dans un cabanon plus froid que les miches d'un singe en bronze. Et je parie qu'Izzy sait que je suis en train de te téléphoner, de cafeter à mon vieux tonton Kermit.
Pete a probablement raison sur ce point. Mais si Miss Jolis Yeux Gris est aussi déterminée à grimper les barreaux de l'échelle que le croit Pete, elle aura sûrement un autre mot en tête. Balancer.
Ce pauvre Brooks. Le peu de cerveau qui lui reste est en vrac. Ce qui fait de lui le parfait bouc émissaire pour les médias. Tu sais comment ils vont présenter ça ?
Hodges le sait, mais il laisse Pete le dire.
Brooks s'est mis en tête qu'il était une sorte de justicier appelé Z-Boy. Il est venu ici. Il a tué Madame Babineau quand elle lui a ouvert, avant de tuer le docteur lui-même lorsque Babineau est monté dans sa BM pour tenter de fuir. Ensuite, Brooks a roulé jusqu'à l'hôpital où il a fait avaler à Hartsfield une poignée de comprimés pris dans la réserve personnelle des Babineau. J'ai aucun doute là-dessus, parce qu'ils avaient une putain de pharmacie dans leur salle de bain. Et ouais, il aurait pu monter à la clinique des traumas sans problème. Il a un badge et il fait partie du décor à l'hôpital depuis 5 ou 6 ans. Mais pourquoi il aurait fait ça ? Et qu'est-ce qu'il a fait du corps de Babineau ? Parce qu'il n'est pas ici.
Bonne question. Pete enchaîne.
Ils diront que Brooks l'a embarqué dans sa voiture et jeté quelque part, dans un fossé ou une ravine. Sans doute en revenant de faire bouffer ses comprimés à Hartsfield. Mais pourquoi il aurait fait ça et laissé le corps de la femme étendu ici dans l'entrée? Et pourquoi être revenu ici pour commencer?
Ils diront
« Ouais, qu'il est fou. Ils vont pas s'en priver. » Réponse parfaite à tout ce qui tient pas debout. Et si le sujet Ellerton Stover est évoqué, et il le sera sans doute pas, ils diront qu'il les a tués aussi.
S'ils font ça, se dit Hodges, Nancy Alderson appuiera cette thèse, du moins dans une certaine mesure, parce que c'est indubitablement biblial qu'elle a vu tourner autour de la maison de Hilltop Court.
Ils vont clouer le pauvre Brooks au pilori, se tireront du battage médiatique sans trop se mouiller et tourneront la page. Mais il y a plus, Kerm, il y a forcément plus. Si tu sais quelque chose, si t'as ne serait-ce qu'un fil à tirer, tire-le. Promets-moi de le faire.
J'en ai plus d'un, pense Hodges. Mais c'est Babineau la clé. Et Babineau a disparu.
Il y avait beaucoup de sang dans la voiture, Pete?
Non, pas beaucoup. Mais la scientifique a déjà confirmé que c'était le groupe sanguin de Babineau. Rien de concluant, mais... Merde. Faut que j'y aille. Izzy et un des skids viennent de sortir par la porte de derrière. Ils me cherchent.
D'accord.
Appelle-moi. Et si t'as besoin de quoi que ce soit, demande.
Je le ferai.
Hodges raccroche et lève les yeux, prêt à briefer Holly, mais Holly n'est plus à côté de lui.
Bill,
elle parle à voix basse.
Viens là.
Surpris, il la rejoint à la porte de son bureau, où il s'arrête net. Jérôme est installé derrière sa table de travail, assis dans le fauteuil pivotant de Hodges. Ses longues jambes sont étendues devant lui, et il regarde le zapit de Dinah Scott. Ses yeux sont grands ouverts, mais vides. Il a la bouche béante. De fines gouttes de salive perlent sur sa lèvre inférieure. Une petite musique sort du minuscule haut-parleur du gadget, mais ce n'est pas le même air qu'hier soir. Hodges en est sûr.
Jérôme ?
Il fait un pas en avant, mais il n'a pas le temps d'en faire un deuxième que Holly la grippe par la ceinture. Sa poigne est étonnamment forte.
Non !
Dit-elle de cette même voix basse.
Il ne faut pas le faire sursauter. Pas quand il est comme ça.
Quoi alors ?
J'ai fait un an d'hypnothérapie quand j'avais 30 ans. J'avais des problèmes de... Bon, peu importe les problèmes que j'avais. Laisse-moi essayer.
Tu es sûr ?
Elle le regarde, les joues pâles, de la frayeur dans les yeux.
Non, mais on ne peut pas le laisser comme ça. Pas après ce qui est arrivé à Barbara.
Entre les mains de Jérôme, le zapit émet un flash bleu étincelant. Jérôme ne réagit pas, ne scie pas. Il continue seulement à fixer l'écran pendant que la musique tintine à bulles. Holly avance d'un pas, puis d'un autre.
Jérôme ?
Pas de réponse.
Jérôme, est-ce que tu m'entends ?
Oui,
dit Jérôme sans lever les yeux de l'écran.
Jérôme, où es-tu ?
Et Jérôme répond.
À mon enterrement, tout le monde est là. C'est magnifique.
17. La fascination de Brady pour le suicide a commencé à l'âge de 12 ans, alors qu'il lisait Raven, un livre sur les suicides de masse de Johnstown, au Guyana, où plus de 900 personnes étaient mortes, dont un tiers d'enfants, après avoir bu du jus de fruits additionné de cyanure. Ce qui l'avait intéressé, au-delà de l'excitante quantité de morts, c'était la progression ayant abouti à l'orgie finale. Bien avant le jour où des familles entières avaient avalé ensemble le poison et où des infirmières, ouais, de vraies infirmières, avaient injecté la mort à coups de seringues hypodermiques directement dans la gorge de nourrissons hurlants. Jim Jones avait préparé ses adeptes pour l'apothéose à coups de sermons enflammés et de répétitions de suicide qu'il appelait « ses nuits blanches ». Il les avait d'abord gavés de paranoïa pour les hypnotiser ensuite avec l'attrait séduisant de la mort. En terminale, Brady avait rédigé la seule dissertation qui lui avait valu un A pour un cours de sociologie à la con intitulé « La vie américaine ». Le titre de sa dissertation était « Les voies mortifères américaines, brève étude du suicide aux États-Unis ». Dans son devoir, il citait les statistiques de 1999, année disponible la plus récente. Plus de 40 000 personnes s'étaient suicidées cette année-là, généralement avec des armes à feu, méthode la plus fiable pour en finir, les comprimés arrivant juste derrière. Elle s'était également pendue, noyée, tranchée les veines, flanquée la tête dans des fours à gaz, immolée et jetée en voiture sur des piles de ponts. Un type inventif, que Brady avait évité de mentionner, déjà à l'époque, il prenait soin d'éviter de se faire cataloguer comme bizarre, s'était électrocuté en s'introduisant une ligne à 220 volts dans le rectum. En 1999, le suicide était la 10e cause de mortalité aux États-Unis. Et si on y ajoutait les cas classés « morts naturelles ou accidentelles », probable qu'il arriverait tout en haut de la liste avec les maladies coronariennes, le cancer et les accidents de la route. Sans doute toujours après ces trois-là, mais pas loin derrière. Brady avait cité Albert Camus. Il n'y a qu'un problème philosophique vraiment sérieux, c'est le suicide. Il avait aussi cité le célèbre psychiatre Raymond Katz, qui avait déclaré tout net « Tout être humain naît avec le gène du suicide ». Brady ne s'était pas embarrassé à ajouter la deuxième partie de la déclaration de Katz parce qu'il estimait qu'elle lui enlevait de sa théâtralité. Chez la plupart d'entre nous, ce gène demeure latent. Au cours des 10 années écoulées entre l'obtention de son bac et le moment fatidique à l'auditorium Mingo, la fascination de Brady pour le suicide, y compris le sien, toujours vu comme partie intégrante d'un geste historique et grandiose, avait persisté. Aujourd'hui, contre toute attente, cette graine a pleinement germé. Il sera le Jim Jones du XXIe siècle.